si j'ai un conseil à donner, c'est déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Non pas, ne supprimez pas tous ces instruments, mais de temps en temps, levez la tête. D'abord, levez la tête. C'est-à-dire dans la rue. Levez la tête de vos portables. Vous savez, il y a ce poème merveilleux de Baudelaire à une passante. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Des regards se croisent. Mais comment flâner dans les rues? On ne croise plus les regards, puisque tout le monde téléphone ou est rivé sur son portable à faire ce qu'on appelle, je crois, du scrolling. Dans les rues, dans les salles d'attente, dans les autobus, tout le temps, partout. Il faut quand même lever la tête pour regarder le spectacle de la rue.
Je ne pense pas par moi-même, de moi-même. J'ai besoin d'être provoqué, défié, contesté, pour ne pas m'endormir. La forme de l'entretien me sort de ma torpeur naturelle. Alain Finkielkraut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, académicien, et vous publiez « La modernité à contre-courant », qui est un recueil de vos ouvrages, dans lequel, d'ailleurs, il y a plusieurs ouvrages d'entretien. En quoi est-ce que c'était important pour vous de publier ce recueil? Et également, en quoi est-ce que le format de la conversation et du dialogue a été important dans la construction de votre pensée?
Pour vous répondre, je vous citerai Montaigne, un des plus beaux chapitres des essais, « L'art de conférer ». Il dit « Le plus naturel exercice de notre esprit est à mon gré la conférence. La conférence, c'est dans la langue de Montaigne, c'est la conversation. Il ajoute, quand on me contredit, on n'éveille pas, on éveille mon attention et non pas ma colère. Je m'avance vers qui me contredit, qui m'instruit. Je m'avance vers qui me contredit, qui m'instruit. La cause commune, la vérité doit être la cause commune à l'un et à l'autre. Et en effet, il faut savoir être modeste. On ne pense pas tout seul. On a besoin des autres. C'est un des effets, sans doute, de la finitude. Et pour moi, le dialogue, l'entretien, la conversation, le débat est une forme de stimulation absolument indispensable. Toute ma vie tourne autour de cela, puisque j'ai même créé en 1985, il y a bientôt 40 ans.
Est-ce que vous avez la date exacte ?
C'est janvier 1945.
Je crois que c'est 21 septembre.
Je crois que c'est en septembre.
C'est ce que m'a dit Wikipédia, mais peut-être que je me trompe.
Ah, Wikipédia, c'est tout. Wikipédia, c'est tout. Et alors, si Wikipédia vous le dit, je crois que c'était plus tôt, mais peut-être en effet était-ce le début de la saison. Jean-Marie Borzex dirigeait France Culture. Il a eu cette idée. Je lui avais proposé d'ailleurs un autre titre. Je lui ai proposé l'esprit d'escalier. Il avait dit non, c'est un jeu de mots, les gens ne vont pas comprendre. Réplique, et les deux premiers invités étaient François Furet et Max Gallo. Nous étions deux à faire l'émission, oui. À tenir l'émission, à l'animer, Ginantil et moi. Parce que je n'étais pas prévu dans le premier casting de Jean-Marie Borzex. Il avait voulu François Georges, le philosophe. Et François Georges dit oui, et puis après il dit non, tout seul je ne saurais pas le faire. Donc, on ajoute Ginantil. Et ensuite, François Georges se désiste. Il dit « Ah non, c'est pas pour moi », etc. Donc, j'étais le deuxième choix de Jean-Marie Borzex. J'ai commencé avec Ginantil. Ça a duré une année. Et puis, ensuite, j'ai repris l'émission tout seul. Et en effet, c'est chaque semaine une conversation dans laquelle j'invite et je m'invite. Et c'est pour moi, en effet, un exercice salutaire.
Est-ce que vous savez combien d'émissions de répliques il y a eu ?
Non.
Je vais vous donner une date au début, je vais vous donner un chiffre, une fourchette, un peu plus de 1400, entre 1400 et 1500. Donc ça fait beaucoup d'heures. Et également, l'âge de réplique, non seulement considérablement plus élevé que le mien, plus élevé que celui du Christ également, c'est quasiment 40 ans.
Oui.
85, 2024.
Oui, cette émission est plus vieille que le Christ. Je l'avais jamais envisagée sous cet angle.
Et ben, je vous souhaite le même destin. Enfin,
non, pas tout à fait.
Pas tout à fait. Oui, mais il y a une sorte d'immortalité aussi. Donc, bon.
Oui, enfin, disons que c'est un exercice, pour reprendre le mot de Montaigne, auquel je suis de plus en plus attaché.
D'accord. Voilà. Mais quel a été l'intention initiale, le premier jet qui vous a poussé dans cette direction, qui vous a fait dire il faut créer cette émission ?
Ben, c'est Borzex, en fait. Moi, j'étais son choix, son
D'accord,
deuxième
oui.
choix même. J'ai accepté d'entrée de jeu, sans savoir très bien ce que je voulais. Et peu à peu, les choses se sont clarifiées dans mon esprit. Des débats, sans doute, parce que le débat, déjà, commençait à être en péril. Disons, j'ai vu se fermer peu à peu la belle parenthèse antitotalitaire. Celle où, justement, la vie intellectuelle n'était plus envisagée dans le registre de la guerre, du combat, mais du débat. Création du débat en 1980. Et création par Jean-Marie Borzex, plus tard, d'une autre émission de France Culture, Les Rencontres de Pétrarque. Ça se passe toujours à Montpellier l'été, et on invitait des gens à discuter ensemble. Et je me souviens des premières rencontres de Pétrarque, un moment euphorique. C'était les membres des grandes revues, Le Débat, Commentaire, Esprit. J'ai découvert des gens à ce moment-là. Je crois que j'ai rencontré Philippe Reynaud, j'ai rencontré Pierre Manant. Tout le monde, il y avait un plaisir de se découvrir, un plaisir de parler, malgré la divergence. La droite, la gauche et le centre étaient représentés. Mais on discutait, on avait un monde commun. Tout ça a été mis en péril dès 2002 par la parution du livre de Daniel Linenberg dans la collection de Pierre Rosanvallon, La République des idées. Ce livre s'intitulait Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Réapparition des listes noires, dans laquelle figuraient Pierre Manant en première place, Marcel Gauchet, Michel Belloubec, Philippe Muret et moi. J'aurais été, entre autres, j'aurais été désolé de ne pas y être, parce que c'était vraiment une dream team. Et nous étions réactionnaires, bien sûr, parce que nous critiquions certains aspects de mai 68 et de la culture de masse. La culture de masse était identifiée à la démocratie, sexiste et, pire que tout, raciste. En l'occurrence, islamophobe. Et moi, j'insistais de manière outrancière sur une vague d'antisémitisme dont la réalité, disait Daniel Linenberg en 2002, est sujette à caution. Le livre a été republié par Pierre Rosanvallon, qui l'a qualifié d'essai prémonitoire. C'est-à-dire la négation de l'antisémitisme
est prémonitoire.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'antisémitisme que la gauche aime détester, l'antisémitisme d'extrême droite. C'est l'antisémitisme islamiste relayé, comme on le voit de plus en plus maintenant, par l'extrême gauche. Il ne fallait pas en parler. Si vous voulez, j'ai vu quand même aussi le climat intellectuel se durcir peu à peu. Et j'en subis les conséquences, plus ou moins, parce que certains tenants de la ligne politiquement correcte, certains woke, évidemment, maintenant refusent de venir à mon émission.
Bien sûr.
Ils disent « Ah non, sûrement pas, etc. » Il n'en est pas question. Donc, voilà. La conversation est en péril.
Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. On a reçu ici Marcel Gaucher et on a parlé de ça. Ce qui est amusant, c'est que chacun a dit du mal de sa génération, ce qui était une belle façon de refaire la transmission intergénérationnelle de façon paradoxale. Il a expliqué que les boomers étaient coupables de plein de choses et j'ai dit que la mienne ne valait pas mieux. Et là où je pense que la mienne est inquiétante pour la suite, c'est que quelqu'un comme Gaucher ou comme vous, qui organisait volontairement la contradiction, la mise en contradiction de théories, de théoriciens, de pratiques, d'idées, c'est un esprit que le conséquentialisme impatient d'aujourd'hui ne saurait tolérer longtemps. C'est-à-dire que pourquoi passer par des chemins détournés pour arriver à une vérité supérieure quand on peut l'affirmer tout de go et censurer l'opinion adverse ? Et beaucoup d'articles sont parus lorsque la revue Le Débat s'est arrêtée en disant « Est-ce que la fin du débat signifie la fin du débat ?» Et là-dessus, ça m'a intéressé d'avoir votre regard sur ça. Y a-t-il des émissions de répliques qui, selon vous, se sont mal déroulées où le débat n'a pas pu avoir lieu et que vous regrettez peut-être rétrospectivement ?
Alors d'abord, sur l'arrêt de la revue Le Débat, effectivement, Marcel Gaucher et Pierre Nora, au premier chef, ont jeté l'éponge parce qu'il leur semblait qu'une ère allait se clore. Quand il a lancé Le Débat, Pierre Nora était très clair. Et en fait, cette revue s'est créée en quelque sorte en opposition au temps moderne. Les temps modernes de Sartre, qui exprimait l'engagement et qui plaçait en effet la vie intellectuelle sous le paradigme non seulement de la politique, mais de la guerre. La politique conçue en inversant la formule de Clausewitz comme la guerre poursuivie par d'autres moyens. Et avec Nora et Gaucher, une autre époque allait s'ouvrir. On débattait à nouveau parce que, bien entendu, on était unis aussi dans un même refus de l'illusion totalitaire. C'était cela. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette période, peut-être en effet, se termine sous nos yeux. Mais je crois aussi que Nora et Gaucher n'ont pas pensé à leur succession. Il y a un côté, justement, quand on vieillit, il faut faire très attention à cela, après moi le déluge.
À la transmission.
Voilà, la transmission, de toute façon, nous sommes irremplaçables. Parce que c'est très dur
de se laisser
préparer son propre remplacement. Si vous voulez dire. Il faudrait que notre disparition laisse un vide qu'on ne peut pas remplir. Parce que je crois, moi, que dans les générations des trentenaires, des quarantenaires, il y a des gens capables de reprendre le flambeau. Bien sûr, ils sont minoritaires, c'est clair, mais quelle importance. Simplement, il faut avoir l'œil, il faut être prêt à les saisir. Et moi, je m'efforce justement d'inviter des gens plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi-même. C'est un effort que je fais, et un effort très gratifiant, parce que voilà, il y a des personnalités tout à fait extraordinaires, capables de surgir, et je ne suis pas sûr que cela intéresse énormément Marcel Gaucher. Pour ce qui est de répliques, que vous dire ? Oui, il y a des émissions ratées, ça c'est clair, mais de là à penser à des émissions que je regrette d'avoir fait, sans doute, mais l'oubli est encore plus fort que le regret chez moi.
Je me sens obligé de défendre partiellement Marcel Gaucher. On a parlé de ce sujet avec lui ici. Premièrement, la revue Le Débat s'est muée et a perduré en tant que collection. Donc il y a quand même une forme de permanence.
De continuité. D'ailleurs,
et qui m'a publié.
Vous en avez bénéficié, c'est vrai.
Donc j'en ai bénéficié. Et lui, ce qu'il disait en transmission, c'était le tout premier épisode diffusé, c'est qu'il avait le sentiment que globalement, en général, les jeunes n'avaient pas beaucoup toqué à la porte non plus. Et qu'il aurait aimé qu'il se fasse un peu plus sentir et qu'il vienne le chercher un peu plus dans son bureau, entre guillemets. Et ensuite, vous dites que vous invitez les jeunes. En effet, Marcel Gauchet m'a très gentiment publié dans la revue Le Débat. Vous m'avez également invité dans Réplique. Et ça a été pour moi vraiment un bel aboutissement et un honneur magnifique. Et j'aimerais peut-être raconter un peu pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne une émission en réplique. Premièrement, on est accueilli chez Alain Finkielkraut, ce qui est quand même plus sympathique que des couloirs morbides de Radio France. Donc on a deux découvertes pour le prix d'une, à la fois l'émission et le lieu dans lequel elle est tournée. Ensuite, ça nous fait croire en l'existence de Dieu, puisqu'on voit le nombre de livres et on constate que l'étage ne s'est pas effondré sur l'étage d'en dessous. Donc, espèce de miracle permanent de tout ce savoir qui arrive à être tenu par l'architecture contemporaine. Et ensuite, lorsque l'émission démarre, vous faites des gestes de la main pour nous demander de raccourcir ou de continuer, etc., que les gens ne voient pas, évidemment, vu que c'est de la vraie radio. Et il y a une véritable patience dans le fait de donner la parole, d'inviter différents profils, et encore une fois d'organiser cette contradiction. Et je me répète, c'est une disposition de l'esprit qui, dans ma génération, qui est incapable de constater sans condamner, incapable de décrire sans décrier, qui se perd tout à fait. Et pour ça, je vous suis une nouvelle fois très reconnaissant.
Ce que vous dites est très gentil. Et dans un dernier mot sur le débat et Gauchet, peut-être ne faut-il pas attendre que les jeunes frappent à la porte. Je pense qu'il faut aller les chercher. Il faut avoir l'œil, il faut regarder ce qui paraît ici ou là, et il faut aller les chercher. On ne peut pas désespérer d'une génération tout entière. Il est vrai que la tempête woke, dont vous avez très bien parlé, touche avant tout les jeunes. Et c'est très dangereux parce que le wokisme, c'est un esprit de supériorité sur les autres et sur le passé. C'est l'idée qu'on est woke, c'est-à-dire éveillé, contrairement à ceux qui sont endormis et contrairement à tout le passé de la culture.
Oui.
Parce que nul n'est aussi sensible que nous autres à toutes les discriminations. On pouvait, à une époque, combattre éventuellement le racisme, mais alors on était quand même sexiste, porteur de l'ordre patriarcal, homophobe, etc. Seule notre époque, si vous voulez, sait regarder en face toutes les discriminations. Et donc, elle va traquer les stéréotypes de genre. Voilà. C'est incroyable d'aller chercher les stéréotypes de genre dans Lucien Levène, par exemple. C'est pas ça. Il faut avoir l'humilité d'accueillir les œuvres du passé. Les classiques, disait Borges, sont des œuvres qu'on aborde avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. De cette ferveur préalable, il ne reste rien dans le wokisme. Donc c'est un phénomène extrêmement dangereux. Mais justement, il y a vous, il y a d'autres personnes de votre génération, Benjamin Wailibel, Samuel Fitoussi, qui combattent cette tendance. C'est une tendance terrible. J'enregistrais une émission réplique sur le peintre Gustave Caillebotte. L'émission s'intitule Peindre les hommes. Et moi, ça me réjouissait a priori, parce que je me disais, ben, voilà, les hommes qui sont maintenant au banc des accusés, ben, tout d'un coup, ça va être un beau sujet de peinture. Et il est vrai qu'il y a une insistance sur les hommes dans l'œuvre de Caillebotte, pas exclusivement, parce qu'il y a des natures mortes absolument extraordinaires, mais bon, c'était un choix que je trouvais audacieux, culotté. Alors c'est vrai, l'exposition est très belle, vraiment très belle. Il y a notamment une toile très justement célèbre, Les raboteurs de parquet, mais l'accompagnement, le catalogue, les cartels sont désespérants de conformisme. Ils veulent provoquer l'auditoire, mais en fait, c'est la pensée de l'air du temps,
Bien sûr.
c'est-à-dire, attention, le genre, Caillebotte montre la vulnérabilité de certains hommes, il témoigne aussi d'un certain homo-érotisme, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec la table qu'on voit, mais c'est l'esprit de l'époque qui s'insinue, même dans la manière dont nous sommes censés les regarder. Donc la situation est extrêmement grave et il faut vraiment en finir avec, enfin, revenir à une forme de modestie et de réceptivité. Réceptivité à la parole de l'autre, dans l'entretien, réceptivité aussi aux œuvres du passé, parce que la culture, c'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre. Je ne pense pas par moi-même de moi-même. C'est ce que l'humanisme, d'ailleurs, de la Renaissance nous a appris. L'humanisme de la Renaissance, tout d'un coup, redécouvre les anciens. La modernité commence par la redécouverte des anciens. Alors, ils étaient connus, les Platon, les Aristote, mais c'était sous l'égide de la théologie. La vérité ultime de tout ça, c'est la théologie. La Renaissance dit non. Il y a une vérité intrinsèque à ces œuvres. Et c'est à travers ces œuvres que chacun accède au monde et à lui-même. C'est par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture qu'on y comprend quelque chose. Voilà la grande leçon de l'humanisme de la Renaissance. Et le wokisme est une rupture brutale avec cet humanisme qui se déchaîne dans les universités américaines. Ah, autrefois, les parents un peu fortunés envoyaient leurs enfants finir leurs études à Yale, à Columbia, à Berkeley, à Harvard. Maintenant, quand il s'agit des humanités, il ne faut surtout pas qu'ils fassent cela, parce que ces enseignements sont un véritable lavage de cerveau. Oui. Et leurs enfants, au bout d'un an, deux ans ou trois ans de ce régime, reviennent fanatisés, mais complètement fanatisés. Oui. Et c'est donc, vous voyez, c'est une... Et c'est en train, vous le savez mieux que personne, d'arriver en France.
Bien sûr.
Donc, voilà, la transmission même est mise en crise par ce qui est beaucoup plus qu'une nouvelle mode.
Et alors, celui qui va expliquer, qui a écouté les plus de 1400 émissions, et soit un menteur, soit Alain Finkielkraut lui-même, deux catégories mutuellement exclusives. Quand même, est-ce qu'il y a pour vous une émission en particulier qui vous a marqué, dont vous êtes particulièrement fier? Moi, j'ai mon vote à moi qui est...
Alors, dites-moi tout de suite.
Celle entre... encore une fois, je n'ai pas du tout écouté les 1400, mais entre Sylvain Tesson et François-Xavier Bellamy sur demeurer versus la fausse opposition, entre guillemets, du voyage et du départ, que j'ai trouvé absolument remarquable et d'une exigence, ne serait-ce que sur la forme, absolument foudroyante.
Alors, vous avez raison pour Sylvain Tesson. J'allais l'oublier, mais c'est une émission qui m'a laissé un souvenir ébloui. Vous savez, maintenant, cette émission, je la fais chez moi.
Oui.
Je la fais chez moi, oui, depuis 2-3 ans. Donc, les gens viennent, il y a beaucoup de livres, en effet. Et puis moi, je m'entoure de livres pour la préparer et pour lire des passages, des extraits. Et là, en plus, c'était une émission que je voulais faire sur la poésie. J'ai demandé à Tesson les poèmes qu'il avait le plus marqués. Il est arrivé bardé de livres. J'adore les gens qui arrivent préparés à la réplique. Ceux qui arrivent comme ça, les mains dans les poches, je me méfie un peu.
Bien sûr.
Mais lui, il était plus que préparé. Il en avait partout. J'ai trouvé ça merveilleux. Ouais. En plus, il a une langue orale très précise et très belle. Il est poétique en parlant, Sylvain Tesson, ce qui est un don très rare. Et je m'étais préparé dans le même sens. Donc j'ai choisi mes poèmes. Il y a du Victor Hugo, du ceci, du cela, etc. Du Paul Jean Toulet. On était là, chacun avec son livre, et ça a été avec ses livres, et ça a été pour moi un moment magnifique. De toute façon, les émissions que je retiens le plus relèvent davantage de la conversation littéraire que du débat. Ah, je fais une place au débat, bien sûr. Très récemment encore, j'invitais sur MeToo, le mouvement MeToo, Caroline Fourest et une féministe de choc, Camille Froide-Vaumétry. Heureusement qu'il a accepté. Elle ne fait pas partie de cette génération qui refuse de parler avec les réactionnaires. Voilà. Et c'était une émission très pugnace, très combative, qui a eu d'ailleurs, d'après les lettres que j'ai reçues, que le médiateur a reçues, un grand écho et même un grand succès. Donc je tiens à maintenir le débat en place, c'est très important, ça fait respirer la démocratie quand même, mais je dois dire, un entretien littéraire, c'est merveilleux. J'ai fait une émission à la rentrée sur Anatole France, c'est-à-dire Les dieux ont soif, donc je prends non seulement un auteur, mais une œuvre, Les dieux ont soif, qui est une œuvre magnifique sur la terreur, un roman magnifique. J'ai invité François Taillandier, lui-même romancier, et Guillaume Métayer, un jeune, d'ailleurs, grand spécialiste d'Anatole France. Et les émissions les meilleures, je les écoute, si vous voulez. Je suis à ce moment-là le premier auditeur. Alors évidemment, j'ai quelques munitions, je peux parler, mais j'ai envie d'écouter mes deux invités. J'ai aussi fait une émission sur Madame Bovary. J'ai pris cette décision à partir d'un article du Monde sur ce qu'on appelle, c'est un phénomène d'édition, la New Romance. Phénomène d'édition qui gagne même les maisons les plus prestigieuses. La New Romance, voilà, c'est des romans fleurs bleues, avec des scènes de sexe aussi, et qui ont un succès gigantesques et qui font vivre maintenant les maisons d'édition. Donc tout d'un coup, c'est la littérature, c'est pas Flaubert, mais c'est la littérature que lisait Madame Bovary qui s'empare des esprits. Je veux dire, vraiment une bonne occasion de revenir au roman de Flaubert. Oui. Et c'était Marie-Hélène Lafont, une très bonne romancière et un critique, un universitaire, Philippe Dufour. Et là encore, j'ai été très heureux de les entendre.
Si ces romans font vivre ces maisons, on pourrait dire qu'ils ont le Viagra comme viager, qui les permettent de vivre dans la durée. Moi, j'ai un regret lors de notre émission très, très léger, qui, lorsque je discutais avec mon traducteur, vous avez commencé à sortir mon ouvrage et vous cherchiez une citation. Et puis finalement, vous avez été pris par autre chose et c'est passé à la suite. Et je me suis endormi en me disant... qu'est-ce qu'il allait lire de mon livre ? Et à ce jour, je ne peux pas savoir. Outre le fait qu'il y aurait eu une citation de mon livre lue à haute voix dans réplique, la curiosité m'a empêché de dormir ce soir-là.
Vous auriez dû me téléphoner, je vous aurais dit. Là, maintenant, je ne sais plus. Non, la seconde, je ne sais plus.
Mais sachez plus généralement que moi, quand je présentais ce projet d'émission-ci à des gens, la façon dont je les résumais, c'était une réplique de réplique. Le format est relativement similaire. Vous vous invitez deux personnes, parfois trois, parfois une, mais globalement...
Parfois une.
Globalement deux, en général.
Oui. Philippe Tesson était tout seul.
Oui.
Philippe Tesson était tout seul.
Ouais, l'émission que j'avais en tête, c'était Sylvain Tesson et François-Xavier Bellamy, plus particulièrement.
Ah oui, d'accord. Seul. Oui, c'est une autre. Mais moi, je parlais de Sylvain Tesson sur la poésie tout seul.
D'accord.
Quelquefois, j'aime bien avoir une seule personne.
Oui, oui. Donc là, on est vraiment dans un véritable dialogue... Et cette émission a vraiment marqué une génération, parce que je sais que beaucoup de gens qui écoutent Transmission écoutent également fréquemment Réplique sur les mêmes applications de podcast, passent de l'un à l'autre, etc. Et je suis certain que ceux qui nous regardent seront vraiment ravis que vous ayez accepté cette invitation-là. Je voulais parler également donc de votre recueil que vous avez publié et exceptionnellement citer une deuxième citation que j'ai trouvée vraiment particulièrement belle, surtout dans la mesure où votre plume fait partie de celles qui m'ont le plus inspiré, dont je suis très admiratif. Je vais lire quelques aspects de la page 5 du recueil qui est tiré donc, là, du texte « Nous autres modernes », en tronquant un petit peu, mais pour que les gens aient l'essentiel. Vous écrivez « Le 13 août 1977, Roland Barthes note dans son journal « Tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. Barthes était alors de ceux, très peu nombreux, triés sur le volet, qui faisait la pluie et le beau temps en matière de modernité. Il était l'un des sélectionneurs de l'équipe. Entre l'ancien et le nouveau, Barthes souverainement tranché. Il ne cessait de séparer l'actuel du caduc, le contemporain du périmé. Et le voici qui, seul avec lui-même, reconnaît que la ligne de partage passait par son propre cœur. Il était le juge et aussi l'accusé. Son autre moi sort de sa cachette et respire enfin à l'air libre. » Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a inspiré ces écrits tranchants?
Alors, j'ai connu Barthes.
Ah oui.
J'ai été son élève avec Pascal Bruckner. Nous assistions à son séminaire. Ensuite, je le voyais de temps en temps au café, etc. Il m'avait même fait miroiter un poste aux hautes études. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais voilà. Et puis, c'est un homme, de toute façon, que je lisais avec plaisir. Mais c'est très intéressant. Tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. Parce que tout d'un coup, la modernité, notamment artistique, apparaît non pas selon sa promesse comme une libération, mais comme un surmoi terrorisant.
Oui.
Voilà. Et ce surmoi, Barthes l'incarnait et en même temps il pesait sur lui parce que il séparait le contemporain du périmé. Il y a aussi ce livret Z sur Sarrazine de Balzac, où il sépare le lisible du scriptible. Il y a des œuvres lisibles, intéressantes, mais le scriptible, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment le couteau de la valeur qui passe entre l'ancien et le moderne. Et puis, voici Barthes, chez lui, qui lit Guerre et Paix avec un immense plaisir. Donc, il se dit, peut-être faut-il un jour que je me réconcilie avec moi-même. Et c'est très important, et ça a joué pour moi, parce que j'ai été étudiant, victime de ce surmoi, et donc de cette contradiction qu'il y a en moi entre les livres que j'aimais et ceux que la modernité m'imposait de porter au nu. Vous savez, c'est le grand renversement opéré par un écrivain qui avait une grande importance à l'époque, qui s'appelait Jean Ricardou. Donc c'est la critique de la représentation de la Némésis. On passe de l'écriture d'une aventure à l'aventure de l'écriture. Michel Foucault dit cela aussi, un peu dans Les mots et les choses. Donc on se met à lire des livres qui sont l'aventure de l'écriture et qui ne débouchent sur rien.
Oui.
Il peut y avoir un dépassement de la mimésis dans l'art moderne, et encore les plus belles œuvres modernes conjuguent l'abstraction et la figuration, notamment Paul Klee. Et la pure abstraction, ça devient un problème. Et en outre, les grands peintres d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec l'art contemporain, reviennent d'une manière ou d'une autre à la figuration. Mais on peut concevoir le trajet vers l'abstraction. Mais l'équivalent dans la littérature n'a aucun sens. Il faut bien raconter quelque chose. Et alors, d'où pour moi l'importance de cette phrase de Barthes, parce que d'un côté, c'est une véritable confession, et aussi de la rencontre à la fin des années 70, de Milan Kundera. Et j'ai eu la chance de le connaître à partir de ce moment-là, mais je le lisais. Et il était porteur, dans ses romans et dans ses essais, d'une autre définition de la modernité. Il dit, être moderne, je résume, c'est avancer sur la route héritée vers de nouvelles découvertes. Donc il ne s'agit pas de contester l'héritage, il s'agit de le prolonger, étant admis que le roman est une œuvre d'élucidation, d'investigation et d'élucidation du monde réel. Il y a des choses qu'on n'a pas vues et que les romans nouveau, nous permettre de voir. Donc c'est un tout autre visage de la modernité qui apparaît. On n'est pas là dans cette rupture perpétuelle.
Oui, bien sûr.
Dans ce congé méprisant donné à l'ancien. Et personnellement, la rencontre de Kundera et de la pensée d'Europe centrale a joué un rôle immense dans ma vie. Et j'ai compris, effectivement, que la littérature, le roman, c'était une recherche, une élucidation continue justement, du phénomène humain.
Et est-ce que vous parlez donc des petites nations et la fragilité des petites nations, est-ce que vous vous êtes toujours senti immédiatement très attaché à votre pays? Moi, j'ai dû attendre un peu, je dirais, la majorité, avant de comprendre un peu ce que ça signifiait. C'est souvent quand on quitte temporairement son pays qu'on se rend compte que ce qu'on universalisait comme étant normal était en fait une particularité exceptionnelle dans les deux sens du terme. Donc en quittant la France temporairement pour le Royaume-Uni, je me suis dit que c'était pas trop mal. Bon. Et donc déjà, est-ce que vous avez toujours ressenti ça? Et est-ce que...
Ressenti quoi? J'ai pas bien
compris. Un amour de la France particulièrement, ou est-ce que ça s'est fait dans la durée, notamment via l'étude des petites nations dans leur fragilité et dans leur mortalité?
Non, non. Je n'étais pas particulièrement attaché à la France dans ma jeunesse. J'étais spontanément universaliste et internationaliste. La France était pour moi une carte d'identité.
D'accord.
C'est tout. Rien de plus. Et c'est devenu une identité peu à peu. Peu à peu, j'ai été saisi par ce que Simone Veil appelle le patriotisme de compassion. Vous savez, un livre de Simone Veil auquel je tiens beaucoup, c'est un auteur, étrange, Simone Veil, parce qu'il y a une part d'anti-judaïsme frénétique chez elle. Mais c'est un immense esprit que Camus aimait beaucoup. C'est Camus qui a choisi le titre L'Enracinement pour ce livre posthume. Et Camus est allé se recueillir dans la chambre laissée intacte de Simone Veil par ses parents au moment d'aller recevoir son prix Nobel en 1957. Donc j'aime ce lien, cette continuité entre Simone Veil et Camus, et le patriotisme de compassion, qu'elle oppose un peu au patriotisme de la grandeur, c'est la tendresse pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Et c'est quand j'ai compris, effectivement, que la France avait quelque chose de précaire, qu'elle m'est devenue précieuse. Précaire, en effet, sous l'effet, sous le choc, notamment du changement démographique, mais aussi de manière plus insidieuse et plus intérieure, du fait de l'effondrement progressif de la langue. C'est quelque chose que l'on perçoit quand on a un peu d'oreille. C'est, si vous voulez, les Français parlent de moins en moins français.
Bien sûr.
Ils parlent, le français n'est plus leur civilisation, c'est un moyen de communication, avec une syntaxe toujours plus approximative, un vocabulaire qui se rétrécit et un globish de plus en plus envahissant.
Bien sûr.
Donc c'est ça. Donc c'est un idiome singulièrement fragilisé et qu'on essaye de défendre. Et quand on essaye de le défendre, on est tout de suite pointé du doigt. L'autre jour est paru l'édition du dictionnaire de l'Académie française,
oui. Très
accueillant, faut-il le dire, à certaines innovations qui ne devraient pas s'y trouver.
Vous y avez contribué
Non, pas du tout. Je suis un très mauvais élève, malheureusement.
D'accord.
Mais les linguistes atterrés ont publié dans Libération un article pour fustiger ce dictionnaire. La langue française ne devrait pas être confiée à des académiciens, ni même à des écrivains. Elle relève des spécialistes, et des spécialistes qui nous disent que le français ne décline pas, mais puisque de toute façon, aucun jugement de valeur n'a de sens.
Bien sûr.
C'est l'usage qui fait foi, donc c'est extraordinaire. Comment ne savent-ils qu'il ne décline pas, puisqu'il n'y a plus de critères, puisqu'il n'y a plus de bon usage.
Bien sûr.
Mais voilà, donc le français ne décline pas. Et moi, c'est un peu en voyant cela, en voyant le rôle de plus en plus marginal de la culture et de la littérature, que je me suis pris d'un amour pour cette nation menacée. Mona Ozouf dit souvent, disait, la France est une patrie littéraire et une patrie féminine, où les femmes ont toujours une grande place dans la vie française, dans la poésie, dans la littérature française, dans la peinture française. Et maintenant, le féminisme est en train d'avoir raison de la féminité et de cette vision des choses. On vous explique que la France a toujours été une horrible société patriarcale et on plaide non pour la coexistence heureuse des sexes, mais pour la guerre des sexes, afin d'achever le travail d'égalité. Quant à la patrie littéraire, non, ce n'est plus vrai. Oui. La France est entrée, avec les autres pays, dans l'ère de l'après-littérature.
Oui.
Donc c'est devant ce spectacle désolant que je suis devenu de plus en plus patriote.
Bien sûr. Je précise que dans l'après-littérature, vous faites une analyse qui complète l'analyse de nous autres modernes en disant « Toutes les civilisations ont posé un dedans et un dehors, avec la civilisation d'un côté et la barbarie de l'autre. Nous, on a fait une variante qui est à la fois la même chose et très différente, qui est que notre dedans et notre dehors n'est pas géographique, mais temporel. Il y a un avant et un après. »
Oui, vous avez raison.
« Les gagnants, entre guillemets, écrivent l'histoire, et donc l'âge d'avant, plutôt que les traités de barbares, on va dire que c'est l'âge moyen. » Rémi Brague parle beaucoup de ça. En anglais, c'est « the dark ages », donc les âges sombres. Et là-dessus, c'est cette même logique du temps qui donne raison aux choses. Et on a parlé de Roland Barthes. Je n'avais pas encore lu cet ouvrage avant d'écrire le mien. Dans le mien, j'ironisais sur Daniel Schneiderman, qui, lors d'une émission d'Arrêt sur image, est face à un homme qui lui dit
oui.
« Je ne suis pas un homme, monsieur ».
Oui, je me souviens.
Et qu'ensuite, il lui dit « Je suis à moitié libanais ».
Il était barbu. Hein.
Oui.
C'était compliqué, là,
c'était
quand même.
Compliqué. Et la réaction de Schneiderman, qui, moi, m'a intéressé, c'était d'analyser son surmoi. C'est-à-dire qu'il rigole, parce qu'il y a un bon sens qui jaillit de lui et qu'il n'arrive pas tout à fait à rattraper à temps, qu'il regrette toujours deux secondes après. Et ensuite, on a le sentiment que le personnage aurait pu lui dire « Je suis une femme noire de 6 ans » qu'il aurait patiemment hoché la tête. Et je trouvais ce comportement extraordinaire parce qu'on avait le sentiment qu'il se disait « Peut-être que dans la nuit, la ligne du parti a changé. Il ne faut pas insulter l'avenir. » La pire chose à faire. Et donc, je vais traiter ce qui m'apparaît comme étant une folie improbable avec les plus grands gants et m'excuser si l'individu le requiert quand même. Alors que je n'ai pas compris de quoi il parlait. Il est blanc, il est libanais, il est homme, il est femme, etc. Tout ce qu'il dit deviendra vrai sur lui-même et je me plie au sens de l'histoire. Et de ce point de vue-là, je trouvais que Schneiderman avait des faux airs de Barthes tels que vous les décriviez dans Nos autres modernes.
Oui, enfin, il lui demandera jamais... Comment dire ? Il ne dira jamais, Daniel Schneiderman, qu'il lui est devenu indifférent de ne pas
c'est
être
vrai.
Moderne. Il collera.
Il n'a pas d'émancipation. Hein.
Ce sera un. Jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, ce que Kundera appelle un collabo de la modernité.
Il écrit en écriture inclusive et il parle de raciser. Il a 45 ans trop pour le faire. Mais...
Alors, c'est très intéressant parce que j'avais apporté à tout hasard un livre qui me paraît très symptomatique de l'époque. Un livre qui a eu peu d'écho, hein, de Manuel Cervera Marsal, professeur de sociologie. Quoi d'autre ? Le livre s'intitule « Résister, petite histoire des luttes contemporaines ». Il est publié quand même aux éditions 18, c'est pas tout à fait rien. Et j'y suis traité comme je le mérite, à plusieurs reprises. Mais il y a une citation qui répond un peu à la préoccupation que vous exprimez. Pardon. Quelles que soient les éructations d'Alain Finkielkraut et des vieux réactionnaires qui l'accompagnent, il est désormais autorisé de parler de celle qui lit, donc c'est même pas celles et ceux, c'est celle qui lit. Yel gagne du terrain, jusqu'à faire leur entrée dans le Petit Robert, propriété de Vincent Bolloré. Patriarcat, féminicide, écocide, ces termes sont désormais dans les dictionnaires et dans le langage ordinaire. Inceste, racisme, transphobie, homophobie, sexisme, des mots sont mis sur la violence. Vous voyez, toutes les discriminations, toutes sont là, c'est le wokisme à l'état pur. Et voilà, donc, des gens comme moi sont jetés dans les poubelles de l'histoire. Et c'est très intéressant, cette fortune du mot réactionnaire. Alors, deux choses. On n'a plus le droit de regarder derrière soi.
Il faut continuer à courir.
C'est coupable et c'est très intéressant parce que même les entreprises les plus inoffensives sont frappées de ce label infamant. Il y a eu deux films, Amélie Poulain et Les Enfants du Marais, que Télérama n'a pas supporté. Mais pourquoi ? Parce que, dans cette France d'avant, la diversité n'était pas représentée.
Voilà. Bien sûr.
C'était un monde blanc. Et donc, ça veut dire que on a la nostalgie de ce monde-là. Et ça, c'est déjà du racisme. Il ne faut pas le tolérer. Et en plus, le mot réactionnaire nous inscrit, et là je vous rejoins complètement, sur un axe temporel. Et c'est une menace interne à la démocratie pour la santé démocratique elle-même. Parce que la démocratie, c'est un régime qui prend naissance dans la conscience qu'a chacun de sa propre finitude. Nul n'est propriétaire de la vérité divine.
Bien sûr. Hein,
parce qu'il y a eu les guerres de religion,
oui.
On a compris. Il fallait faire autrement. Donc voilà, la démocratie est une scène où se confrontent des opinions et où on se dit que de cette confrontation naîtra peut-être une forme de vérité. Et on se dit aussi que cette confrontation fait du bien à tout le monde.
Bien sûr.
Ce que je dis, on ne pense pas de soi-même.
Oui.
Par soi-même, et John Stuart Mill avait cette phrase admirable, « Qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. »
Tout à fait.
Donc voilà, c'est ça. Mais la démocratie, c'est aussi, d'ailleurs Tocqueville nous prévient de ce danger, un mouvement.
Une direction.
Une direction,
oui.
C'est-à-dire un progrès, dit-il d'ailleurs, irrésistible de l'égalité des conditions.
Oui.
Voilà, c'est un mouvement d'égalisation. Et on en voit les résultats. Et Tocqueville se dit, il faudra bien que ça s'arrête un jour. Qu'est-ce que ça a comme sens que la démocratie dans la famille et en plus la démocratie à l'école. La démocratie est fondée sur la dissymétrie du maître et de l'élève. Si on met tout le monde sur le même plan,
bien sûr,
la transmission ne se fait pas et on le voit aujourd'hui. Mais surtout, ça veut dire qu'il y a des vivants de plein droit, ceux qui vont dans le sens de l'histoire, les progressistes. Et il y a des survivants, il y a des et ceux-là sont comme des yaourts qui ont dépassé leur date de péremption.
Oui.
Alors que font-ils là? C'est ça qu'on veut dire par réactionnaire. Vous ne devriez plus vivre. Dégagez. C'est une forme de dégagisme, si vous voulez. C'est ça que dit le texte que je venais de vous lire. Et cette définition de la démocratie finit par l'emporter sur l'autre, alors effectivement, on ne pourra plus se parler.
Bien sûr. Il y a une équivalence qui est faite, me semble-t-il, dans le discours contemporain, entre le retardataire et l'attardé, qui ne ferait qu'un.
Voilà, c'est ça.
Il ne faut rien lui expliquer. Et ce qui me fascine, c'est que le 68art, qui, en ayant 20 ans, proclame le jeunisme, c'est-à-dire l'idée que les jeunes ont toujours raison, ne comprend pas qu'il est en train de se lancer un boomerang assez prévisible quand même, qui va se retourner contre lui. Daniel Schneiderman a beau faire tous les efforts du monde, il va bien être obligé d'éclater de rire un jour et de se faire annuler à son tour. Philippe Muret parlait du pour-toutisme. Tout est pour tous, etc. Mais le pour-toutisme a été dépassé dans son universalisme, si je puis dire, par le pour-toutes et toutsisme, pourrait-on
toutes
dire.
Toutes et tous, oui.
Où on a remplacé le tous par toutes et tous. C'est notre président qui a popularisé cette mode autour de 2016-2017. À l'époque, je me souviens que Nicolas Canteloup, l'humoriste, l'imitait en faisant ça. Et deux choses, déjà tout le monde savait qu'il imitait rien qu'Alexa. Aujourd'hui, on ne saurait pas vous dire qui on imite si on faisait ça, celles et ceux, etc. Et deuxièmement, tout le monde trouvait ça très drôle. Aujourd'hui, plus personne ne rirait. Donc on a déjà vu comment en très peu de temps les normes langagières ont évolué là-dessus. Et celui qui aujourd'hui va vouloir faire du pourtoucisme sera déjà trop excluant, alors que la même intention a été prolongée et tous ont été dépassés par cette cadence. Et donc l'avant-garde est condamnée à devenir rétrograde, ce qui est à la fois extraordinairement évident, prévisible, et en même temps, ceux sur lesquels ça tombe ne s'y attendent jamais.
Oui, mais je crois que vous vous trompez. Daniel Schellermann ne sera jamais annulé. Il sera toute sa vie, de chroniqueur à Libération notamment, du côté des annulateurs. Ça, je vous rassure, il ne peut pas être annulé. D'ailleurs, ce que vous avez dit de l'émission le prouve bien. Il a un moment où le sens commun l'emporte et il étouffe en lui le sens commun tout de suite. Et c'est aujourd'hui le surveillant général des médias. Donc,
Mais un plus pur trouve toujours un pur trouve toujours un plus pur qui l'est pur aussi. Les révolutionnaires sont
oui,
constamment en
mais
train de...
je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un certain nombre de. Il y a un corpus du wokisme. Et voilà, on suivra le mouvement, on suivra justement l'évolution de la langue. Alors c'est vrai, ça va de plus en plus vite. Le président de la République donnait l'exemple. Avec son celles et ceux, son chacune et chacun, son toutes
Celles
et
et ceux qui est déjà
tous.
devenu celle-eux. Vous
Voilà,
voyez,
et
ça va
justement,
vite quand même.
maintenant il y a c'est le, c'est vrai. Mais déjà, le celles et ceux avait quelque chose d'absurde, mais on n'osait pas le dire. Et d'ailleurs, plus personne, même l'Académie française, ne défend
C'est vrai?
l'idée du neutre. Le neutre était défendu d'ailleurs par un rapport à l'Académie française de Lévi-Strauss et de Dumézil. Ça veut dire, oui. C'est le masculin, ça peut être le
Bien
neutre.
sûr.
Ça peut être le neutre, mais maintenant, on ne le dit plus, même à l'académie. C'est pas possible. On est pour la féminisation des métiers. Une femme avocat est forcément une avocate. On ne peut pas dire à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Président. C'est une insulte qu'elle ne supporte pas. Donc voilà, et on ne peut plus dire si un train s'arrête au milieu de la voie que les voyageurs sont priés de ne pas descendre. Les voyageuses, comme si les voyageuses se sentaient insultées, et disaient, ou alors pas concernées, et donc allaient fumer une clope à côté du train pendant son arrêt. Puisque de toute façon, ce n'est pas pour elles, c'est que pour les voyageurs. Personne ne peut penser ça. Jamais les voyageuses n'ont eu besoin d'être nommée en tant que telle,
Bien sûr.
qu'on les femmes, justement, quand la lutte féministe avait un sens, et Dieu sait si elle en a eu, ne protestait pas contre cette idée du neutre. Maintenant, c'est clair, c'est fait, mais encore une fois, ça ira toujours de l'avant, l'écriture inclusive aussi, vous voyez, donc,
Oui.
et c'est très impressionnant, l'écriture inclusive, parce que l'Académie française, quand même, a réagi à ce moment-là. Et elle a dit, l'écriture inclusive, dans un communiqué, l'écriture inclusive d'un péril mortel pour la langue. Et une humoriste a surgi quelque part pour dire, le seul péril mortel à l'Académie, c'est la prostate de ses membres. Donc nous sommes des vieux,
Oui.
nous sommes des vieux cons, nous sommes des vieux grabataires, tremblotants, on n'a pas à écouter ce que nous racontons. Voilà, et donc il faut. Et même quand le gouvernement veut interdire l'usage de l'écriture inclusive à l'université et dans l'administration, il n'y arrive pas.
Oui.
Il n'y arrive pas. Or, l'écriture inclusive, c'est un péril mental pour la langue, pour la culture, pour la littérature. C'est-à-dire
Vous
que.
parlez de bégaiement obligatoire dans la
Oui,
prélittérature.
bien sûr. Et là encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire Proust en écriture inclusive? Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, c'est. Et on essaye, en effet, maintenant de trouver l'équivalent oral de l'écriture inclusive avec ces absurdités de Yale qui figurent dans le Robert et dans le Larousse,
C'est vrai.
pour ceux qui ne se reconnaissent ni homme ni femme, donc Yale, et c'est le, etc. Donc, est-ce que ça s'arrêtera un jour? C'est ça la question. Est-ce
Bien
qu'on sera
sûr.
capable de poser des limites? Il y a une lutte. Aujourd'hui engagé entre le sens commun et le wokisme, et l'issue de cette lutte est aujourd'hui impossible à discerner.
Non, bien sûr. L'histoire, paradoxalement, n'est pas écrite, en l'occurrence.
Non. Alors, l'histoire n'est pas écrite, pour le coup.
C'est important de le répéter. Et alors, dans ce que vous appelez modernité, il y a un certain nombre de choses que vous mettez en avant dans votre recueil. Et l'une d'entre elles, c'est en effet de vouloir sans cesse liquider les classes retardataires. Et il y a une espèce de figure de bouc émissaire du passé qui est omniprésente et qu'il faut sans cesse liquider. Et là où ça me paraît important, c'est qu'il ne s'agit pas de traiter la modernité de totalitaire, mais que c'est quand même un point commun que partagent la modernité et le totalitarisme. C'est-à-dire qu'on a un mouvement des choses qu'il faut faciliter. On a reçu Pierre Manant qui nous a beaucoup parlé de ça sur le libéralisme. On facilite le mouvement des biens et des personnes. Dans le communisme, il y a un mouvement historique et il y a une classe de dominants qui cherche à le ralentir et de par les contradictions de l'histoire, elle sera renversée. Dans le nazisme, alors qu'il est un peu plus tourné vers le passé quand même que la modernité et le communisme, il y a cette idée quand même des gens qui retardent l'espèce, qui ralentissent l'espèce, qui évoluent vers plus de force, globalement une espèce de darwinisme mal digéré. Et comment se départir de cette conception du monde que partagent nazisme, communisme et modernité, de liquider cette figure de fonctionner systématiquement par ringardisation. Moi, c'est quelque chose que j'avais écrit dans mon ouvrage sur ça, qui était, est-ce que lorsqu'on a accueilli en son sein le terme de ringardisation comme insulte suprême, est-ce qu'on ne s'est pas soi-même allumé une mèche ou mis une date de péremption sur le front qui nous oblige à imploser de l'intérieur tôt ou tard?
Non, mais il y a un vrai danger. Il y a, dans le progressisme, en effet, une composante totalitaire. Puisque une seule opinion est admise, celle qui va dans le sens de l'histoire. Nous aurions dû, après l'épreuve du XXe siècle, nous défaire de cette idée d'un sens de l'histoire. Non, l'histoire n'est pas le théâtre de l'accomplissement de la raison.
Oui.
Contrairement à ce que pensait aussi bien Hegel que Marx. Voilà. Prendre les événements comme ils viennent. Et ne pas oublier que nous sommes tous contemporains.
Oui.
Voilà. Ça, c'est très important. Alors, d'un autre côté, il ne faut pas non plus témoigner d'ingratitude envers la modernité.
Bien sûr.
Ça, je crois que c'est très important. Parce que la modernité est née d'un geste tout à fait extraordinaire, une science non plus contemplative, mais opérationnelle, qui se destine à l'amélioration de la condition des hommes. C'était le programme fixé par Bacon et aussi par Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, pour que ça aille mieux. La conservation de la santé est le principal but de mes études, disait Descartes. Et Dieu sait si c'était... Si la médecine était retardataire,
bien sûr.
Si vous voulez, il faut y penser. Louis XIV avait tous les pouvoirs, tous les privilèges, etc. Mais son agonie, comme le raconte Saint-Simon, a été terrible. Tout cela nous est épargné.
Bien sûr.
Nous sommes, les femmes n'accouchent plus dans la douleur.
Ne serait-ce que le dentiste.
Oui. Nous avons des anesthésies, nous avons des
bien
antibiotiques,
sûr.
Etc. Mais alors justement, de ce progrès-là est née l'idée, pour parler comme Bacon, que la vérité n'est pas fille de l'autorité, mais fille du temps.
Oui.
Voilà. C'est dans le temps que se déploie la vérité. Alors c'est vrai pour la médecine, c'est vrai partiellement pour la science, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on se dit que la science aussi devrait avoir des limites, sauf à mettre l'humanité tout entière hors d'usage. Nous entrons peut-être dans l'âge de l'obsolescence de l'homme avec l'intelligence artificielle, mais c'est une autre question. Simplement, il faut aussi ne pas aller trop loin et ne pas voir tout ce que font les hommes, toutes leurs actions, dans le sens d'un progrès continu. Vers quoi ? Vers l'émancipation ? Vers l'égalité? Non, non, non. L'égalité ne doit pas sortir de son lit non plus.
Oui.
L'égalité des citoyens, c'est une chose. L'égalitarisme, c'est, c'est l'enfer. Donc tout cela doit être profondément médité, en effet, pour vider le progressisme de sa composante totalitaire.
Bien sûr. Alors, vous avez dit qu'il ne fallait pas être ingrat vis-à-vis de la modernité, c'est tout à fait juste. Où je nuancerais néanmoins, c'est que les modernes sont souvent les premiers à être ingrats par ailleurs. Vous avez vous-même beaucoup écrit sur l'ingratitude des modernes et l'incapacité à se sentir comme étant des nains juchés sur des épaules de géants, poursuivant humblement une lignée, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui...
Les nains sur les épaules de géants, c'est déjà de l'ingratitude, parce qu'ils voient plus haut.
Oui, c'est
ils
vrai.
Ils sont sur les épaules des gens, ils voient plus haut.
À moi, condition de se concevoir comme un nain, quand même.
Je ne suis pas... Oui, d'accord, mais quand je lis Tolstoï, je ne suis pas sur l'épaule de Tolstoï. Je ne suis pas sur l'épaule de Platon, de Kant,
oui,
de Hegel ou de Heidegger.
Il y a déjà peut-être un début d'arrogance.
Une attitude un peu plus humble, encore une fois, que celle démontrée par cette image.
Mais ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que la défense de la modernité... a été quasiment extrême-droitisée et prise à son propre jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait parler aujourd'hui de réactionnaires de la modernité, de gens qui voudraient revenir à la modernité plutôt qu'à la post-modernité dans laquelle nous sommes, des nostalgiques du progrès, en quelque sorte. Comment expliquer ce paradoxe et est-ce que ces gens-là ont une chance de gagner cette bataille idéologique ?
Non, les nostalgiques du progrès, je ne dirais pas les choses comme cela, parce que...
Demain, c'était mieux avant.
Oui, mais c'était mieux avant. C'est pas le progrès qui était mieux avant. C'était en effet la fracture française, la lutte des classes. C'était mieux que la fracture française. C'était mieux aussi quand les professeurs n'allaient pas au lycée, au collège, la peur au ventre.
Oui.
Il y a quand même ça. C'est tous les jours.
Hein. C'est dans Pêcheur de perles votre entrée sur McCartney et sa chanson Yesterday.
Oui, Yesterday. Oui, non, mais tous les jours il y a des faits qu'on appelle divers pour s'en débarrasser. On apprend qu'une collégienne a giflé sa professeure. Une autre, ce que j'ai appris très récemment, aurait tenté d'étrangler une enseignante. Enfin, ce sont des situations absolument inédites. Vous savez, moi, j'ai été deux ans professeur, une fois que j'ai passé l'agrégation de notre moderne, dans un collège à la lisière de Beauvais. J'avais des élèves vraiment de F et G. G, c'est gestion, F, c'est fabrication. Donc, ils n'avaient pas de rapport particulier avec les humanités. Et je n'ai jamais eu un seul problème de discipline. Je n'ai jamais eu à les faire taire.
Vous n'avez jamais eu à leur dire « taisez-vous » ?
Oui, voilà. Et en effet... Et surtout, je veux dire, j'étais pas toujours content. Mais quand j'étais pas content, c'était de moi
oui.
que j'avais à me plaindre. Je me suis dit, putain, aujourd'hui, je me suis réveillé du mauvais pied. Les mots ne venaient pas.
Oui, oui,
c'est le cours. En plus, je faisais des cours magistraux. Aujourd'hui, oui. on vous explique surtout pas de cours magistral. Or, c'est un pléonasme.
Oui.
Un cours est forcément magistral, sinon c'est plus un cours. Alors qu'il y ait des échanges au sein ou après le cours, bien sûr. Mais que les échanges remplacent le cours, c'est la fin de l'enseignement, c'est la fin de la transmission. Voilà, donc, et maintenant, j'imagine que dans ce collège de Beauvais, la situation a complètement changé, avec effectivement le nouveau public scolaire, avec l'inculture galopante, c'est-à-dire les réseaux sociaux remplaçant les livres, la dysorthographie, etc. Et d'ailleurs, je vois aussi des jeunes gens aujourd'hui qui passent à l'agrégation et qui se disent, ben oui, je vais enseigner. C'est assez beau. J'ai passé un concours très difficile et je vais essayer de transmettre mon savoir à des jeunes gens venus de tous les horizons puisque nous vivons sous le régime de la méritocratie, c'est-à-dire de l'égalité des chances. Et quelquefois, au bout d'un an, au bout de deux ans, ils sont absolument découragés, parce qu'ils font de l'alphabétisation, parce qu'ils font de la discipline, et donc, ils se mettent en disponibilité, et ils vont voir ailleurs. Donc, il y a évidemment une crise grandissante des vocations, et je peux le comprendre, Bien sûr, on n'est pas très bien payé, on est même mal payé quand on est professeur. Mais le problème est beaucoup plus grave. Vous augmentez substantiellement les salaires des professeurs, oui, ça rendra le métier un peu plus attractif, mais la concrise des vocations durera parce que, comme l'a dit un professeur qui a été secoué il y a quelques années, l'enseignement est en train de devenir un sport de combat. Voilà où nous en sommes. Oui, alors on peut dire que c'était mieux avant, quand la transmission avait lieu, quand le vivre ensemble existait, parce que c'est extraordinaire, le vivre ensemble existait quand le mot n'existait pas.
Oui.
Le mot a été créé pour recouvrir l'absence de la chose. C'est ça.
En fait, on a mis un tiret entre les deux termes. Ouais.
En effet, du vivre ensemble.
Alors, vous avez inclus McCartney dans Pêcheur de Perles. Pourquoi ce choix et pourquoi cette figure? Et, question subsidiaire, logique, quel est le meilleur album des Beatles?
Les Beatles?
Oui.
Alors, McCartney, oui, c'est vrai, parce que j'ai voulu introduire un peu de fantaisie dans ce recueil. Il y avait des citations très imposantes d'Elias Canetti, de Paul Valéry, de Milan Kundera, d'Anna Arendt. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas McCartney? Parce que ça me ressemble, si vous voulez. Ce n'est pas pour dire McCartney, c'est plus beau que la musique classique. Je n'ai pas cette prétention, mais je ne dirais pas que j'ai grandi avec les Beatles, j'ai grandi avec McCartney. Je l'aimais particulièrement.
D'accord.
Et déjà, ma réputation de réactionnaire commence là, parce que à mon époque, il était de bon ton de préférer les Rolling Stones aux Beatles. C'était plus radical. Et si déjà on aimait les Beatles, de préférer Lennon,
ouais,
plus engagé, à McCartney, seulement poupin et mélodique. Et moi, sa voix, je l'ai toujours trouvée absolument renversante.
C'est formidable.
Donc, et alors, de tous les albums des Beatles, oh, je dirais, et c'est très banal, que celui qui m'a évidemment le plus frappé, c'est Sgt. Pepper's Lonely Club Band.
D'accord.
Voilà, ça, et avec cette petite chanson de McCartney, When I'm 64.
Très bien.
Quand j'aurai 64 ans, ce qui lui était, c'est très éloigné de lui, oui. Et il approche maintenant des 80.
C'est vrai.
Et voilà, j'en suis
c'est,
là aussi.
C'est une belle réponse, c'est une mauvaise réponse, mais c'est une belle réponse. Il me semble que le meilleur est Abbey Road, à la fois pour les lignes de basse, pour les chœurs,
bien sûr.
Sur Because, par exemple. Le meilleur moment de la carrière de George Harrison, globalement, avec Something, qui est peut-être la plus belle, selon Frank Sinatra, la plus belle histoire d'amour jamais écrite. La plus belle chanson d'amour jamais rédigée. Et le moment où il y a un dernier instant de cohésion au sommet d'une carrière, qui par ailleurs se fragmentait en perspectives différentes, et sur un dernier instant magique, ils se touchent culturellement, ils arrivent à produire une œuvre à la fois cohérente, ce qui n'était pas le cas de l'album Blanc, qui déjà partait un peu en chansons magnifiques, mais individuelles, et ils arrivent à concilier cohésion et talent sur ce dernier album, à mon sens, Abbey Road.
Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a des moments magnifiques dans la carrière en solo de McCartney.
Alors,
dès le premier 10, Maybe I'm Amazed, une déclaration d'amour sublime.
Sublime.
Ramon, très beau... très belle chanson bucolique.
Band
plus récemment, une chanson qui s'appelle Jenny Wren. Parce que le génie de McCartney, c'est de faire vivre des personnages.
C'est vrai.
Eleanor Rigby.
Bien sûr.
C'est tout d'un coup Eleanor Rigby, on ne sait pas qui c'est. Et donc, il y a des chansons d'amour très classiques, mais aussi ça.
Ouais.
Et de Eleanor Rigby à Jenny Wren, voilà, ce sont quelques petits chefs-d'œuvre produits par McCartney quand il faisait des parties des Beatles, mais aussi après les Beatles.
Bien sûr. Et là-dessus, l'album Band on the Run aussi est phénoménal. Je ne sais pas lequel de McCartney en tant qu'album vous avez préféré, vous.
Ça, je ne saurais pas vous dire.
D'accord.
Je n'ai pas en tête.
Mais je regrette que ma génération ne le connaisse pas plus, que c'est tout simplement magnifique.
Ah, votre génération a un peu laissé tomber McCartney.
Un peu. Mais les gens ne savent pas, par exemple, que Yesterday, c'est donc une chanson qui lui a révélé dans un rêve, comme il le raconte lui-même, donc une sorte de muse, il s'admet à inspirer... de façon nocturne.
Mais bien sûr, Yesterday.
Bien sûr.
Et il s'est réveillé avec la chanson dans la tête. Il a téléphoné à Eric Clapton et à d'autres. Il dit, est-ce que c'est pas vous qui avez... Ouais. C'est pas toi qui as écrit ça.
Vous voulez savoir qui il allait plagier, en fait.
Voilà, et qui je suis allé plagier. J'ai trouvé ça en rêve. Et l'autre lui dit, non, c'est toi. Et donc, il avait cette mélodie. Et le titre, les premières parole qu'il a donnée, c'était scrambled eggs, œufs brouillés.
C'est vrai.
Puis après, il dit non quand même.
Et c'est autre chose. Après,
ensuite, dans un deuxième temps, il a trouvé Yesterday, qui est en effet une chanson absolument merveilleuse, absolument sublime. Mais il a été visité.
C'est vrai.
Il avait une muse, McCartney, ça c'est vrai. Oui. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est ce qu'il a d'intemporel, c'est-à-dire le sens des mélodies.
Oui.
Ça, c'est un des, franchement,
des
auteurs-compositeurs les plus mélodieux que nous ayons.
C'est la chanson la plus reprise de tous les temps.
Est-ce que Yesterday ?
Absolument. Et la deuxième fois où il a été visité, selon ses propres mots, alors je ne sais pas si l'air lui a été soufflé à ce moment-là, mais plutôt quelques paroles, c'est pour Let It Be, où sa propre mère, Jérôme Fourquet nous en parlerait, s'appelait Mary, comme à peu près tout le monde à l'époque, et lui a dit, à un moment où le groupe était un peu en train de se scinder, let it be, tout va se passer, tout va bien se passer, etc. Et ça lui inspire ce dernier coup de génie au sein des Beatles, qui est la chanson Let It Be, qui est là aussi, vous auriez presque pu la mettre dans votre recueil, parce que la phrase en elle-même, il y a une espèce de...
Oui.
C'est un peu le All Things Must Pass de George Harrison aussi, de les choses coulent, les choses changent, c'est la vie. Ne vous inquiétez pas trop, il y a une espèce de sérénité face à l'existence aussi dans Let It Be.
Oui, cette sérénité n'est pas la mienne, donc j'aurais pas pu, mais j'adore cette chanson, comme j'adore aussi une autre chanson, Hey Jude,
oui,
qui est absolument magnifique et qui est aussi de la dernière période des Beatles.
Et Lennon, pour aller dans votre sens, critiquait McCartney sur l'aspect un peu trop catholique de Let It Be, parce que c'est Mother Mary, donc quasiment la Vierge, qui est également la mère de Paul, qui vient dans un rêve et qui lui dit tout va bien. On a l'impression que ça s'est fait à Lourdes.
Lennon, c'était le révolté. Donc, mais enfin bon, toutes ces révoltes-là me font penser à ce mot merveilleux de Philippe Murray, les mutins de Panurge.
Il y avait les rebellocrates aussi, qui étaient pas mal.
Oui, mais mutins de Panurge, c'est encore plus...
C'est vrai. Et Kluskar aurait dit subversion subventionnée.
Oui.
Et je m'étais amusé dans l'ouvrage à parler des dissideurs, des décideurs qui se veulent dissidents et qui ne voient pas la contradiction.
Voilà, c'est pas mal aussi.
On approche la fin de cet entretien, je vous rassure. Y a-t-il un ouvrage que vous auriez aimé, Alain Finkielkraut, avoir lu plus tôt ?
Quelle question. C'est très bien de lire trop tôt.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire, je n'aime pas la littérature pour jeunesse.
D'accord.
Il faut qu'adolescent, on soit confronté à des œuvres qui vous transcendent. Moi, j'ai découvert Dostoïevski un peu trop tôt. J'ai découvert les mémoires dans un souterrain quand j'avais 15 ans. Et ensuite, fasciné par ce livre étrange sur le ressentiment, sur la dévoration de l'amour propre, j'ai lu L'Idiot, j'ai lu Crime et Châtiment, j'ai lu tous les autres. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que je ne comprenais pas tout et c'est merveilleux. Mais justement, il y en a un autre que j'ai lu trop tard parce que j'avais choisi Dostoïevski, c'est Tolstoï.
D'accord.
J'aurais dû lire beaucoup plus tôt Anna Karénine notamment, que j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans seulement. Et ça, franchement,
pourquoi...
je m'en veux. Alors, je me suis rattrapé en consacrant une émission réplique. Quand même.
Mais pourquoi est-ce que vous auriez voulu l'avoir lu plus tôt ? Qu'est-ce qui vous a manqué ?
Parce que c'est sur l'amour. Un livre absolument admirable. Et parce que le suicide étrange, le monologue d'Anna Karénine est un moment merveilleux de la littérature, très bien commenté par Kundera. Et le désamour d'Anna Karénine vis-à-vis de son propre mari, tout ça est tellement subtil, tellement fin, qu'il faut toujours tenir en regard Anna Karénine et Madame Bovary. Sartre disait d'ailleurs qu'il avait lu Madame Bovary adolescent et il a éprouvé la volupté ambiguë de comprendre sans comprendre. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, de comprendre sans comprendre. Moi, j'ai lu Madame Bovary un peu plus tard, mais assez tôt. Et donc, j'aurais dû lire en regard ces deux chefs-d'œuvre sur l'adultère que sont Madame Bovary et Anna Karénine.
Et pourquoi est-ce que ma génération a besoin de lire ? Est-ce que Alain Finkielkraut, vous pouvez nous faire un éloge de la lecture ?
Ben, c'est plutôt un éloge de la lecture. C'est place à la lecture. C'est-à-dire, si j'ai un conseil à donner, c'est déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Non pas, ne supprimez pas tous ces instruments, mais de temps en temps, levez la tête. D'abord, levez la tête. C'est-à-dire dans la rue. Levez la tête de vos portables. Vous savez, il y a ce poème merveilleux de Baudelaire à une passante. « Ô toi que j'eusse aimé, ou que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. » Des regards se croisent. Mais comment flâner dans les rues? On ne croise plus les regards, puisque tout le monde téléphone ou est rivé sur son portable à faire ce qu'on appelle, je crois, du scrolling. Dans les rues, dans les salles d'attente, dans les autobus, tout le temps, partout. Alors en plus, c'est très difficile de croiser avec insistance le regard d'une femme, parce que c'est déjà, ça relève déjà du harcèlement, mais cela mis à part, oui, il faut quand même lever la tête pour regarder le spectacle de la rue, pour évidemment échanger, même silencieusement, avec les autres, et puis aussi pour se donner le temps de la lecture, si vous voulez. Parce que avec tout ça, avec les nouvelles technologies, on est dans l'échange permanent. Oui. Mais la lecture, ce n'est pas tout à fait un échange.
Une lenteur.
C'est une réception. Mmh. On accueille silencieusement. On n'interrompt pas son vis-à-vis. On ne le commente pas. Alors, quelquefois, on souligne. Bon, c'est vrai, je souligne les livres. Je les abîme. J'ai vraiment besoin de les souligner dès qu'il y a une phrase que j'aime.
Moi aussi.
D'ailleurs, parce que justement, c'est dès qu'on lève la tête, on se dit, ah ben oui, ça, c'est très beau.
C'est
voilà.
Vrai.
Mais justement, on laisse entrer en soi la parole, l'écriture d'un autre. Et c'est un moment délicieux, un moment silencieux. Et voilà. Et alors que le silence des échanges informatiques, c'est plus un silence. C'est tout à fait autre chose. C'est du bavardage. Et donc voilà, je n'ai pas à donner des conseils de lecture. Je suggère simplement de faire à la lecture un peu de place au détriment des écrans.
Vous avez dit qu'il faut se déconnecter. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est déconnecté, c'est très infamant. Il est complètement déconnecté, celui-là. Globalement, c'est pour en dire du mal. Et ça amène à la dernière question qui est qu'est-ce que pour vous signifie justement la notion de transmission?
Ah ben écoutez, pour moi, c'est une notion absolument essentielle. La transmission, c'est la civilisation. La société, disait Auguste Comte, est composée de plus de morts que de vivants. Il faut toujours s'en souvenir. La démocratie, d'ailleurs, la tradition, disait aussi bien Chesterton que Claudel, c'est la démocratie des morts. Et oui, donc il faut que
laisser les morts voter.
Ce dialogue entre les vivants et les morts ne s'interrompt jamais. Et la transmission, c'est cela. Les morts ont leur place. Alors, il y a aussi des vivants, bien sûr. Mais les vivants qui écrivent, c'est des futurs morts.
Oui. Et ils sont moins nombreux.
Hein, ils sont moins nombreux, mais ils sont là. Il faut bien sûr les lire aussi. Donc, la transmission, ça permet d'éviter au présent de s'enfermer en lui-même. Et cet enfermement est le grand risque de notre époque. Notre présent se croit tellement ouvert à l'autre qu'il ne connaît rien d'autre que sa propre ouverture. C'est ça. Et il faut en finir avec cette illusion et seule la transmission peut le permettre.
Alain Finkielkraut, merci infiniment pour votre patience et merci d'être venu sur Transmission. J'espère que ça vous a plu.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un piètre renvoi d'ascenseur après mon invitation sur Répit.
Non, pas du tout.
Mais j'étais ravi de pouvoir le faire et à une prochaine fois avec grande joie.
Merci à vous. Merci de cette invitation. Merci de cette conversation.